École florentine, vie de François Primaticcio, peintre et architecte, né à Bologne en 1490, mort à Paris en 1570. Ne m'étant entretenu jusqu'ici que des artistes qui n'existent plus parmi nous, c'est-à-dire de ceux qui ont vécu depuis 1200 jusqu'à cette année 1567, ayant aussi à bien des égards placé en dernier Michel-Ange Buonarroti, quoique deux ou trois soient morts après lui, j'ai pensé devoir encore ajouter au mérite de cet ouvrage, en faisant également mention de plusieurs célèbres artistes encore vivants, dignes de beaucoup d'éloges et d'être mis au nombre des derniers. Je m'en acquitte d'autant plus volontiers que tous sont mes camarades et mes amis, qu'enfin les trois principaux étant fort avancés en âge, on doit peu s'attendre à voir sortir quelque ouvrage de leurs mains, quoique, par une espèce d'habitude, ils fassent encore quelque chose. Après eux, je parlerai, en peu de mots, de leurs élèves, qui tiennent aujourd'hui le premier rang parmi les artistes, et de ceux qui parcourent également avec rapidité la carrière des arts. Je commencerai par François Primaticcio, pour en revenir ensuite aux Titien Vizcelli et à Jacques Sansovino. Je dirai qu'étant né à Bologne, de la famille noble des Primaticcio, si célébré par le frère Leandro Alberti et par le Pontano, on le destina dès son enfance au commerce. Mais que n'ayant aucun goût pour cet état, et étant doué d'une intelligence et d'un génie supérieur, il s'adonna peu de temps après au dessin vers lequel il se sentait un penchant naturel. Aussi s'y appliqua-t-il tellement, et parfois à la peinture, qu'il ne tarda pas à prouver qu'il excellerait par la suite. Il alla après à Mantoue, où Jules Romain travaillait au palais du Thé, chez le duc Frédéric, et il y fut mis au nombre de beaucoup d'autres jeunes gens qui y travaillaient conjointement avec Jules Romain. Pendant l'espace de 6 années qu'il y resta, il parvint, à force de travail et d'études, à se familiariser entièrement avec l'art de la peinture et celui du stuc. Aussi, fut-il regardé comme celui qui dessinait et peignait le mieux de tous les autres jeunes gens qui travaillaient dans ce palais. C'est ce que l'on peut voir dans une grande salle autour de laquelle il exécuta 2 ornements de stuc, l'un sur l'autre, ainsi qu'une grande quantité de figures qui représentent l'ancienne milice des Romains. Il fit pareillement, dans le même palais, beaucoup de peintures d'après les dessins de Jules Romain. Ses ouvrages le mirent si bien en faveur auprès du duc que le roi François Ier, ayant entendu parler de tous les embellissements du palais du Thé, et ayant écrit au prince de lui envoyer à quelque prix que ce fût un jeune homme qui fut peintre et stucateur, il lui adressa, l'an 1531, François Primaticcio. Quoique le roux fût un an auparavant au service de ce roi, et eut déjà fait plusieurs ouvrages, particulièrement les tableaux de Bacchus et de Vénus, de Psyché et de Cupidon, néanmoins, le Primaticcio fut le premier qui exécuta, dit-on, en France, des peintures à fresques et des ouvrages de stuc dignes d'être cités, dont il décora pour François Ier plusieurs appartements, salles et galeries. Ce prince, satisfait de ses travaux, l'envoya à Rome en 1540 pour tâcher de lui procurer quelques marbres antiques. Il s'acquitta de cette commission avec tant de célérité qu'en peu de temps, il acheta 125 morceaux, tant bustes que torses et figures. À cette époque, il fut moulé par Jacques Barozzi de Vignole et autres, le cheval de bronze qui est au Capitole, une grande partie des sujets de la colonne, la statue de Commode, celle de Vénus, du Lacan, du Tibre, du Nil et de Cléopâtre pour les couler toutes en bronze. Pendant ce temps-là, le roux étant mort et une longue galerie commencée sur ses dessins, ornée de stucs et de peintures n'ayant pu être achevée, le Primaticcio fut rappelé de Rome. Aussi s'embarqua-t-il avec les 10 marbres et les creux des figures antiques pour revenir en France. Sa première occupation en arrivant fut de les faire jeter en bronze, ce qui réussit si bien qu'on les prend pour les originaux même, comme on en peut juger dans le jardin de la reine à Fontainebleau, où elles furent placées à la grande satisfaction du roi, qui fit presque de cet endroit une Rome nouvelle. Je ne passerai pas sous silence que le Primaticcio employa des artistes très expérimentés en ce genre. Aussi, ces bronzes furent coulés avec une telle finesse et tant de légèreté qu'à peine fallut-il les réparer. Le Primaticcio eut ordre ensuite de terminer la galerie commencée par le roux. En effet, peu de temps après, il l'acheva, Elle a décoré d'autant de stucs et de peintures qu'il n'en ait été jamais fait dans tout autre endroit. Le roi, satisfait de ses services, pendant 8 ans qu'il avait travaillé pour lui, le nomma l'un des officiers de sa chambre, et peu après, c'est-à-dire l'an 1544, le fit abbé de Saint-Martin. Malgré cela, le primatice n'a jamais cessé de faire exécuter beaucoup de peintures et ouvrages en stuc, tant pour François Ier que pour ses successeurs. Et parmi les artistes qu'il a employés, outre beaucoup de ses compatriotes, Jean-Baptiste, fils de Barthélemy Magnacavallo, non moins habile que son père, lui a été utile en beaucoup de travaux et de tableaux d'histoire qu'il a exécutés d'après ses dessins. Il a aussi employé pendant longtemps Ruggieri de Bologne, qui est encore avec lui, et il appela en France Prosper Fontana, du même pays, qui à son arrivée, étant dangereusement tombé malade, s'en retourna. À la vérité, ce Magnacavallo et Prosper Fontana sont d'habiles gens. Je puis d'autant l'assurer que j'ai beaucoup employé le premier à Rome et le second à Rimini et à Florence. Mais parmi tous ceux dont s'est servi le Primatice, aucun ne lui a fait plus d'honneur que Niccolo de Modène, car celui-ci a surpassé tous les autres, en peignant de sa main, d'après les dessins du dit Primatice, la salle dite du bal, dans laquelle il a représenté une quantité innombrable de figures. Toutes grandes comme nature et d'un coloris si éclatant, que par la belle entente des couleurs, elles paraissent plutôt peintes à l'huile qu'à fresque. Après avoir achevé cet ouvrage, il a de même exécuté dans la grande galerie, sur les dessins du Primatice, 60 sujets de la vie et des actions d'Ulysse, mais d'un coloris plus foncé que celui de la salle du bal, parce qu'il n'a employé que des terres pures, sans y mêler de blanc. Aussi, ses fonds sont tellement vigoureux que ses peintures produisent beaucoup d'effets et de reliefs. Il y règne en outre un accord si parfait qu'elles paraissent faites en un jour. Ses ouvrages sont dignes du plus grand éloge, étant exécutés à fresque sans jamais avoir été retouchés à sec, ainsi que beaucoup d'artistes d'aujourd'hui ont coutume de faire. La voûte de cette galerie est pareillement ornée de stucs et peintures exécutées avec soin par les artistes cités ci-dessus et d'autres jeunes peintres, mais toujours sur les dessins du Primatice. Telle est encore la vieille salle et une très belle galerie basse qui donne sur l'étang, et qui est ornée des plus beaux ouvrages qui existent dans cet endroit, dont les détails deviendraient trop longs. À Meudon, le Primatice a aussi fait pour le cardinal de Lorraine, dans son vaste palais appelé la Grotte, une grande quantité d'embellissements. Ce palais est tel que, semblable au monument ancien, on pourrait l'appeler les thermes, par la grandeur des galeries, des escaliers, chambres publiques et particulières. Sans parler d'autres singularités, il y a une très belle chambre appelée le pavillon, ornée de divers encadrements en hauteur et remplie d'une quantité de très belles figures qui se suivent dans le même ordre. Au-dessous est une grande salle, avec quelques fontaines travaillées en suc, remplies de figures de ronde bosse et de compartiments en coquille, ainsi que d'autres productions. Tant de mer que terrestre, le tout d'une exécution aussi belle que surprenante. La voûte est de même travaillée en stuc, de la main de Damiano del Barbieri, peintre florentin qui excellait dans le dessin et de ce genre de relief. Quelques ouvrages en peinture ont aussi donné la preuve de son rare génie. Pontio, sculpteur, un de nos compatriotes, a aussi fait dans le même lieu quantité de très belles figures de stuc et de ronde bosse. Mais comme les travaux qui ont été exécutés dans ces divers endroits sont en grand nombre, je m'arrête simplement aux principaux ouvrages du Primatice, pour prouver combien cet artiste est extraordinaire, non seulement dans l'art de la peinture, mais aussi dans ceux du dessin et de l'architecture. À dire vrai, si, comme de ce qui existe ici, j'avais des renseignements exacts, je m'étendrais avec plaisir sur chaque ouvrage en particulier. Mais où le Primatice s'est surtout distingué, c'est dans un dessin colorié de sa propre main, où il a représenté ce que renferme la région céleste. Il est dans notre collection, et m'est d'autant plus précieux que je le tiens de son attachement pour moi, et que je le regarde comme un chef-d'œuvre en ce genre. François Ier étant mort, le Primatice resta à Fontainebleau et servit le roi Henri II tant qu'il vécut. Il fut ensuite nommé par François II commissaire général des bâtiments dans tout le royaume, charge très honorable et de la plus haute importance, dont le père du cardinal de la Bourdésière et monseigneur de Villeroy avait déjà été revêtu. Au décès de François II, il reste au service de son successeur, d'après l'ordre duquel, ainsi que de la reine-mère, il commença la sépulture de Henri II, en élevant au milieu d'une chapelle à 6 faces le tombeau de ce roi. Sur quatre de ces mêmes faces, ceux de ses quatre enfants. À la cinquième, l'autel, et la porte à la sixième. Ce monument, composé d'une grande quantité de statues de marbre et de bronze, ainsi que de beaucoup de bas-reliefs, passera pour être digne de tant de souverains, d'un aussi grand roi et d'un génie aussi rare que celui du Primatice, qui dans son meilleur temps excella dans tous les arts qu'il exerça. Car il fut employé sous différents princes à des ouvrages d'architecture, peinture, stuc, et à des préparatifs de fêtes et mascarades où il a déployé des idées aussi belles que singulières. Il a été très libéral et obligeant, non seulement envers sa famille et ses amis, mais aussi envers les artistes qu'il a employés sous lui. À Bologne, il a rendu beaucoup de services à ses parents, et leur a acquis de belles habitations, commodes et très ornées. Telle est celle qu'habite M. Antoine Anselmi, qui a épousé une de ses nièces dont il a aussi très bien marié la sœur, en lui donnant une bonne dot. Le Primatice a toujours vécu non en peintre et artiste, mais en seigneur, et comme je l'ai dit, a été fort obligeant envers nos camarades. Lorsqu'il appela en France Prosper Fontana, il lui envoya pour sa route une forte somme d'argent dont cet artiste ne put s'acquitter avec ses ouvrages, attendu qu'il tomba malade. Lorsque je passai par Bologne, l'an 1563, je lui recommandai le dit Prosper à ce sujet, et la libéralité du Primatice fut telle qu'avant mon départ de Bologne, je vis une lettre de lui, par laquelle il donnait en entier cette somme à Prosper. Aussi, tant de bienveillance lui a-t-elle acquise de la part des artistes le surnom de père. Pour dire encore quelque chose du même Prosper, je ne tairai point que, d'après les éloges qu'on fit le Primatice, joint à beaucoup d'autres, il fut employé à Rome par le pape Jules III, dans son palais à la Vigna Giulia, au palais di Campo Marzio, qui était alors à M. Balduino Monti, et qui appartient aujourd'hui à M. Hernando, cardinal de Médicis, fils du duc Côme. À Bologne, il a fait aussi plusieurs ouvrages à huile et à fresque. À Notre-Dame del Baracano, il a peint surtout à huile un tableau très estimé représentant Sainte Catherine, qui, en présence du tyran, dispute avec des philosophes et des docteurs. On voit de même, dans la principale chapelle du palais qu'habite le gouverneur, beaucoup de peintures à fresque de lui. Laurent Sabatini, peintre distingué, fut aussi très lié d'amitié avec le Primatice, qui lui a amené en France dans une nombreuse famille dont il était chargé, car il lui connaissait beaucoup de talent. On en peut juger par une infinité d'ouvrages que cet artiste a exécutés à Bologne. Vasari l'employa en 1566 dans les préparatifs qui eurent lieu à Florence pour les noces du prince avec la reine Jeanne d'Autriche, et il lui fit peindre dans le vestibule, entre la grande salle et celle des deux cents, 6 figures à fresque qui sont très belles. Mais comme cet habile artiste acquiert de jour en jour, je ne dirai rien autre chose de lui, sinon qu'on en conçoit de grandes espérances, s'appliquant comme il fait à l'étude de son art. Maintenant, et par la même occasion, je dirai quelque chose de Pellegrino Bolognese, peintre d'un grand génie et qui promet infiniment. Après avoir dans sa jeunesse étudié les ouvrages de Vasari, qui sont à Bologne, dans le réfectoire de Saint-Michel in Bosco, ainsi que ceux d'autres habiles artistes, il alla à Rome l'an 1547, où il s'appliqua jusqu'en 1550 à dessiner les choses les plus remarquables, et fit en même temps et depuis, au château Saint-Ange, quelques ouvrages autour de ceux de Perrin del Vaghe. Dans l'église de Saint-Louis des Français, il peignit sa fresque au milieu d'une voûte de la chapelle Saint-Denis, à sujet de bataille, et quoique Jacques del Conte, peintre florentin, et Jérôme Cicciolante da Sermoneta eussent dans le même endroit exécuté plusieurs choses, Pellegrino ne leur fut pas inférieur, et en égala même beaucoup d'autres, tant par le dessin que par la fierté, la grâce et le coloris. Aussi, Monseigneur Poggio l'employa-t-il beaucoup à sa vigne, située sur le mont Esquilin, où ayant fait bâtir un palais hors de la porte du peuple, il voulut qu'il exécutât sur la façade quelques figures, et que dans l'intérieur il y peignit ensuite une galerie dont la vue donne sur le Tibre. Cet ouvrage, fait avec beaucoup de soin, est regardé comme très beau et plein de grâce. Dans la maison de François Formento, entre la rue du Pèlerin et du Parionne, il décora de même une façade de bâtiment dans une cour, et fit 2 autres figures. Par l'ordre des ministres de Jules III, il exécuta une grande armoirie au belvédère, accompagnée de 2 figures. Hors la porte du peuple, à l'église de Saint-André, que le pape avait fait bâtir, il peignit un Saint-Pierre et un Saint-André qui lui valurent beaucoup d'éloges. Le dessin du Saint-Pierre est dans notre collection avec d'autres dessins de lui, faits avec le plus grand soin. Monseigneur Poggio, l'ayant ensuite envoyé à Bologne, il peignit à fresque dans son palais plusieurs sujets, parmi lesquels on en distingue un très beau, tant à cause des parties nues ou drapées que par la grâce de la composition. Aussi, se surpassa-t-il si bien dans cet ouvrage que depuis il n'a rien fait de mieux. À Saint-Jacques de la même ville, il commença une chapelle pour le cardinal Poggio, qui fut terminée par Prosper Fontana. Le cardinal d'Augsbourg l'ayant ensuite mené à Notre-Dame de Lorette, il y fit une très belle chapelle, décorée de stucs et peintures. À la voûte, dans un riche compartiment en stuc, il a peint la nativité et la présentation au temple de notre Seigneur entre les bras de Siméon. On voit au milieu sa transfiguration sur le mont Tabor, ainsi que Moïse, Élie et ses disciples. Le tableau d'autel représente le baptême de notre Seigneur par saint Jean-Baptiste et le dit cardinal à genoux. Dans une des parties latérales de cette chapelle, il a peint la prédication de saint Jean et dans l'autre sa décollation. Sous l'église, dans la chapelle basse appelée le paradis, où confesse aujourd'hui les théatins, il a de même exécuté les sujets du jugement dernier, ainsi que quelques figures de clair-obscur. Peu de temps après, Giorgio Moratto l'emmena à Ancône, où il y fut faire pour l'église de Saint-Augustin un grand tableau à huile représentant le baptême de notre Seigneur par saint Jean. Dans un des côtés, il y a placé saint Paul et d'autres saints. Sur le gradin, il a peint beaucoup de petites figures remplies de grâce. Pour le même, il fit aussi dans l'église de Saint-Cyriac, sur le mont, un très bel ornement en stuc au tableau du maître-autel, ainsi qu'un Christ de ronde bosse, de la hauteur de 5 brasses, que l'on estima beaucoup. Il a aussi exécuté dans la même ville un très grand ornement en stuc en grand autel de Saint-Dominique, dont il aurait peint le tableau sans une querelle qu'il eut avec celui qui le faisait faire et qui en chargea Titien Vecelli, comme il en sera ailleurs question. Pellegrino ayant en dernier entrepris dans la même ville d'Ancône la galerie où se tient la bourse, dont la vue donne d'un côté sur la mer et de l'autre sur la principale rue de la ville, il en a orné la voûte, nouvellement construite, de beaucoup de figures, tant peintes qu'exécutées en stuc. C'est là que cet artiste a exercé tout son savoir, et cet ouvrage est, à dire vrai, d'autant plus estimable que l'on y remarque des nues en raccourci, dans le style des peintures de Buonarroti, à l'une des chapelles de Saint-Pierre de Rome. Comme dans cette partie de l'Italie, il n'existe point d'habile architecte, Pellegrino s'est adonné à l'architecture et à l'art de fortifier cette province. Et ainsi que celui qui a reconnu dans la peinture plus de difficultés à vaincre et peut-être moins de profit que dans l'architecture, ayant abandonné pendant quelque temps le pinceau, il a dirigé en partie les travaux des fortifications de la ville d'Ancône et de plusieurs autres endroits de l'état de l'église, principalement à Ravenne. Enfin, il a commencé à Pavie, pour le cardinal Borrome, un palais destiné aux écoles publiques. Et aujourd'hui, comme il n'a pas entièrement mis de côté la peinture, il exécute à fresque un très beau sujet dans le réfectoire de Saint-Georges, chez les religieux du Mont Olivet à Ferrare, dont lui-même m'a fait voir il n'y a pas longtemps le dessin, que j'ai jugé être plein de mérite. Mais comme Pellegrino n'est âgé que de 35 ans, et qu'il acquiert dans son art de jour en jour, je n'en dirai rien de plus dans ce moment-ci. Je ne m'étendrai point davantage en faisant mention d'Horace Fumaccini, peintre de Bologne, qui a exécuté à Rome, sur une des portes de la salle des rois, un sujet historique et plusieurs autres peintures à Bologne, qui sont d'autant plus estimées que cet artiste est jeune et qu'il égalera ceux dont nous avons parlé dans cet ouvrage. Les Romagnols, à l'exemple des Bolognais, leurs voisins, se sont aussi distingués dans l'art de la peinture. Car outre Giacomone de Faenza, qui, comme on l'a dit, a peint à Ravenne la tribune de Saint-Vital, on en compte beaucoup d'autres après lui. Maître Luca de Longhi, homme doux et studieux, a fait à Ravenne, sa patrie, et dans d'autres endroits, plusieurs tableaux à huile, ainsi que de très beaux portraits. Et sans parler d'un grand nombre d'ouvrages de cet artiste, on remarque deux petits tableaux de lui pleins de grâce que lui fit faire, il n'y a pas longtemps, dans l'église des religieux classiques, le révérend Don Antoine de Pise, alors abbé de ce monastère. À dire vrai, si maître Lucas ne fut pas toujours resté à Ravenne au milieu de sa famille, il serait devenu fort habile, étant d'un caractère assidu, vigilant et plein de jugement, s'appliquant et travaillant avec patience. Je puis le certifier d'autant que je sais combien il a acquis pendant 2 mois que je demeurais à Ravenne, en pratiquant son art et en raisonnant. Je ne passerai même pas sous silence qu'une de ses filles, encore enfant, nommée Barbe, dessine très bien, et qu'elle a commencé à peindre quelque chose avec beaucoup de grâce et dans un bon style. Il eut pour concurrent, pendant un temps, Livio Agresti de Forli, qui, après avoir exécuté pour l'abbé des Grassi, dans l'église du Saint-Esprit, quelques peintures à fresque et quelques autres ouvrages, quitta Ravenne pour s'en aller à Rome. Là, il s'appliqua beaucoup au dessin, prit une bonne manière, ainsi qu'on peut le voir dans quelques façades et autres peintures à fresques qu'il exécuta dans ce temps-là. Ses premiers ouvrages à Narni ont aussi beaucoup de mérite. Dans l'église du Saint-Esprit à Rome, il a exécuté à fresque, dans une chapelle, des sujets historiques et beaucoup de figures qui prouvent combien il fit une profonde étude de son art. Ce qui, à juste titre, lui attira l'éloge de tout le monde, et ce qui fut cause, comme on l'a déjà dit, qu'on le chargea d'un des petits sujets qui sont au Vatican, sur les portes de la salle des rois, ce dont il s'acquitta de manière à être mis en comparaison avec les autres. Il a peint, pour le cardinal d'Augsbourg, 7 pièces sur tissu d'argent qui ont été admirées en Espagne, où le dit cardinal les a envoyées en présent au roi Philippe pour en décorer un appartement. Il peignit encore de la même manière un pareil tissu que l'on voit aujourd'hui dans l'église des Théatins à Forlì. Devenu enfin dessinateur hardi et grand coloriste, riche en composition, universel dans son faire, le dit cardinal lui a donné de forts appointements et l'a mené à Augsbourg, où il travaille sans relâche et où il s'acquiert beaucoup d'éloges. Mais parmi les autres peintres de la Romagne, Marco da Faenza, que l'on n'appelle pas autrement, est unique dans certains ouvrages. Sa grande pratique dans l'art de peindre la fresque rend sa touche fière, ferme et terrible. On peut même ajouter que personne aujourd'hui, dans le genre des grotesques, ne peut lui être comparé. Rome est remplie de ses ouvrages. À Florence, la plus grande partie des ornements de 20 différents appartements du palais ducal sont de sa propre main, et ceux du plafond de la grande salle ont été peints par Georges Vasari, ainsi qu'on le dira ailleurs plus au long. Marco eut aussi en grande partie la conduite des travaux qui furent promptement exécutés dans la principale cour de ce palais, à l'arrivée de la reine Jeanne. Je ne dirai plus rien de cet artiste encore vivant et dans ce bel âge où s'acquiert le vrai talent. À Parme est aujourd'hui, près du duc Octavien Farnèse, un peintre nommé Mirolo, natif, je crois, de la Romagne, qui, outre quelques ouvrages qu'il a fait à Rome, a peint à fresque plusieurs sujets dans un petit palais que le dit duc a fait faire dans le château de Parme, où Jean Boscoli, sculpteur de Montepulciano, a exécuté avec beaucoup de goût quelques fontaines. Ce dernier, ayant pendant longtemps travaillé en stuc avec Vasari dans le palais du duc Côme de Florence, a fini par entrer au service du duc de Parme, dont il a un traitement considérable. Et il continue à mettre au jour des ouvrages dignes de son rare et grand génie. Il y a aussi dans les mêmes villes et provinces beaucoup d'autres artistes distingués. Mais comme ils sont encore jeunes, on rendra justice à leur talent dans un temps plus convenable. Tel est le terme des travaux du Primaticcio. J'ajouterai seulement que cet artiste, ayant fait faire son portrait à la plume par Barthélemy Passerotto, peintre de Bologne, son grand ami, ce dessin nous est parvenu et nous l'avons placé dans notre collection au nombre de divers autres ouvrages d'artistes célèbres. Fin de la vie de François Primaticcio.